Bonjour, bonsoir à toi, c'est Manoa de Fortu Media. Aujourd'hui, on se retrouve pour le check-up mensuel d'octobre et de novembre, puisque oui, j'ai laissé passer un mois, je n'ai sorti qu'un seul podcast, qui était une interview avec un élève d'Only Cash qui avait fait pas mal de thunes avec très peu d'abonnés. Tu as peut-être vu l'épisode, peut-être pas. En tout cas, je sais que ce format check-up plaît beaucoup, même si c'est pas ceux qui font des records d'écoute, ce sont ceux sur lesquels j'ai le plus de retours positifs, et je pense personnellement que c'est ce format qui apporte le plus de valeur. Donc on va continuer sur cette lancée et on va rattraper les 2 mois que j'ai effectivement, c'est ma faute, involontairement zappé puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Et surtout après septembre, j'avoue avoir eu d'autres focus que créer du contenu audio. Tu le sais, septembre avait été très agité entre l'opération, la perte du contrôle, la perte du... C'est un lapsus. Du compte Instagram, du contrôle fiscal de la DRETS, tout ça qui avait été énormément à gérer d'un coup. En tout cas, c'était la première fois dans ma carrière d'entrepreneur que je faisais face à autant d'un coup. Et les 2 derniers mois ont été plus chill, mais plus importants. Puisque tu le sais, en fait, quand tu as des galères, des galères, des galères, des emmerdes, tu ne bâtis plus. Tu survis, tu fais monter les archers en haut de la muraille. Tu te retranches sur toi-même et tu attends que l'orage passe. C'est un petit peu mon mois de septembre. Mois d'octobre, mois de novembre, ça a été beaucoup plus offensif. On a fait beaucoup plus de choses. Il y a notamment, alors je vais te parler de plusieurs choses. J'ai noté plusieurs points. Je te fais un petit teaser. J'ai marqué vente de crypto, annonce demoiselle, association, stabilisation du CA, club 1%, relations perso, dépenses, zéro de profit. Et intégration fiscale, donc c'est les points qu'on va aborder ensemble dans les prochaines minutes. Premièrement, effectivement, après un mois aussi désastreux que celui de septembre, j'ai eu envie de revenir aux fondamentaux, de bâtir, de créer du cash flow, notamment avec la formation affiliation qui a engendré des affiliés qui ont ramené des ventes et qui ont fait grossir le CA. Donc pareil, on est resté autour des 50-60 par mois, sans TVA évidemment, puisque je suis toujours exonéré de TVA, puisque ma formation est professionnalisante. Ça, c'est quelque chose qui fait une vraie différence dans les comptes, c'est-à-dire quand tu gagnes 20% tout le temps, puisque tu n'as pas de TVA à collecter ni à reverser. Donc voilà, j'ai eu comme focus, puisque j'avais déjà dans l'année investi massivement sur mon image, sur ma notoriété, avec des podcasts, avec des interviews, avec des événements comme les séminaires. Il y en a eu 2 cette année en 2023, il y a eu aussi la conférence, etc., etc. J'avais déjà beaucoup investi et je me suis dit, bah, écoute, le focus de ces derniers mois, ça va être de créer du cash flow, de continuer à bâtir, mais en réduisant les dépenses et vraiment en ayant un seul focus, c'est faire du cash. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Sans créer de nouveaux produits, sans créer une nouvelle offre, on a fait du 50-60, donc c'est très beau. La boîte avec Candy, mon associé, qui s'appelle Olympe, a atteint un record de CA ce mois-ci en novembre, enfin le mois dernier du coup, il y a quelques jours, qui était de 31K. Donc ça fait un total sur 2 boîtes, on est à 90. Et si on rajoute la boîte dans laquelle je viens de m'associer, avec 2 associés que sont Jennifer et son compagnon, Jennifer qui est une modèle qui apprend aux femmes à devenir modèle sur les plateformes de contenu exclusif telles que OnlyFans, etc. Et donc j'ai continué d'étendre un petit peu mon empire, puisque tu le sais, donc j'ai 20% dans la boîte avec Candy, j'ai aussi pris 20% dans la boîte avec Jennifer et son compagnon, puisque le but, évidemment, alors initialement c'était juste de prendre des parts dans des actifs numériques qui allaient cracher du cash flow, comme c'est le cas avec Candy par exemple, et récemment, alors que j'étais censé m'associer dans plein de business, dans plein de boîtes à cash flow, etc., j'ai décidé de réduire un maximum et de concentrer mon focus uniquement dans mon écosystème. Alors, qu'est-ce que j'appelle un écosystème? Ben, un écosystème, c'est dès lors que les différents éléments ont un rapport avec l'autre. J'en ai parlé notamment dans la petite annonce que j'ai faite tout à l'heure sur Telegram. J'ai choisi de publier un extrait pour annoncer ma plateforme. J'ai beaucoup de choses dont je dois te parler, donc ça fait beaucoup d'un coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que de plus en plus, je ne fais rien qui soit en dehors de mon écosystème. Là, par exemple, on a Fortu Media qui forme les hommes à créer des agences de management, de modèles de charme sur les plateformes OnlyFans, Fansly, etc. De l'autre côté, dorénavant, il y a la boîte, la formation avec Jennifer, qui va produire en fait des modèles, qui va aider des femmes à se lancer sur ces plateformes-là. Donc déjà, on a un début d'écosystème qui commence à s'auto-nourrir, à s'entre-nourrir. C'est-à-dire que d'un côté, on a des agences qui sortent prêtes, formées, sérieuses, et de l'autre côté, on a des modèles qui sortent prête, formée, sérieuse. Et on peut mettre en relation les deux, ce qui effectivement crée beaucoup de valeur ajoutée et ce qui permet d'avoir plus de résultats, plus de témoignages, qui nous fait plus d'arguments de vente, etc. Maintenant, le problème quand tu es un formateur honnête, c'est que ta formation, elle remplit ses promesses et donc les gens, ils investissent 1000 balles chez toi, ils prennent ta formation et après ils vivent de leur business, c'était la promesse que tu leur avais faite, du coup ils n'ont plus besoin d'acheter chez toi. Et c'est un petit peu le syndrome que j'ai découvert récemment, c'est-à-dire que oui, je promettais aux gens de faire 3 cas par mois avec leur agence, ils bossaient, enfin ils prenaient la formation, ils bossaient, quelques mois plus tard ils faisaient 3 cas par mois. Donc en fait ils n'avaient plus rien à acheter chez moi, à part le club 1% dont je te parlerai un petit peu plus tard. Et donc, je me suis retrouvé face à ce constat assez fâcheux de me dire « Ok, donc là, j'ai 600 clients sur la formation Only Cash, rien que sur la formation Only Cash, dont la grande majorité satisfait et dont une grosse partie a des résultats, et je ne peux rien leur vendre derrière, ce qui d'ailleurs, dans un business, est essentiel. Hein, pouvoir vendre et revendre aux mêmes clients, c'est essentiel pour la croissance d'une entreprise. Mais puisque moi, je suis passé en monoproduit, qui est certes plus cher, mais qui... effectivement, est le seul produit que je vais vendre, eh bien, à ce moment-là, alors que j'ai des centaines et des centaines de clients satisfaits, je n'ai plus d'infoproduits à leur vendre. Je peux effectivement facturer un petit peu du coaching pour ceux qui veulent aller plus loin, mais globalement, at scale, je n'ai rien à proposer. Et du coup, ça faisait des mois et des mois qu'on avait des feedbacks des différentes plateformes où nos élèves nous disaient « Putain, c'est mal foutu sur OnlyFans, il n'y a pas ça. Putain, sur Fansly, il n'y a pas ça, etc. » Et donc nous, ce qu'on a fait depuis 6 mois, c'est se dire « Ok, on a un constat purement égoïste et intéressé qui est que on ne peut pas revendre aux clients satisfaits, ce qui est un manque à gagner énorme. Et on a un constat aussi où pour eux, c'est chiant d'avoir plein de problématiques dans leur activité. Comment est-ce qu'on pourrait étendre notre écosystème ? Enfin, comment je pourrais étendre mon écosystème, pourquoi je dis nous, je ne sais pas. J'ai pris le truc des start-upers qui font genre ils sont 20 dans leur boîte alors qu'ils sont 2, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je me suis retrouvé à un moment où j'avais un besoin de revendre mes clients et ces mêmes clients avaient un problème, mais qui ne pouvait pas être résolu par un infoproduit. Donc, j'ai lancé un SaaS. Un SaaS qui est une plateforme qui est en cours de développement, sur laquelle on bosse depuis plus de 6 mois, qui est en gros comme OnlyFans, avec des choses en plus, des choses en moins, notamment les commissions. En fait, on a enlevé la grande majorité de ce qui cassait les couilles aux agences, qui était mal foutu pour les modèles, pour les agences, pour les chatters. On a rajouté 2-3 features qu'on pensait intéressantes. On a fait en sorte que la commission qu'on facture soit moins chère que OnlyFans, qui est à 20, nous on est à 15. Et là, j'ai commencé à build une public sur Telegram, sur Instagram, en commençant à parler justement de cette plateforme, etc. Et comme ça, on a un écosystème incroyable avec d'un côté la formation qui crée des modèles, de l'autre côté la formation qui crée des agences, et dernièrement, une plateforme sur laquelle on peut envoyer tous ces acteurs économiques et prendre un pourcentage sur tout ce qui est généré, plus de la valorisation de malade. Donc c'est un projet qui me coûte extrêmement cher, au total je vais être à 200 000 euros, si on met les frais d'avocat, les frais de développement, etc. etc. Donc c'est un projet, oui, qui coûte une blinde, à pas se mentir. Mais par contre, c'est un projet qui... Alors là, on n'est plus à vendre des PDF et des MP4, quoi. C'est un projet qui peut me rapporter des millions, si ce n'est même des dizaines de millions. J'ai même un associé dans la boîte qui a la plus grosse agence OnlyFans de France. J'ai 600 agences prêtes à venir sur la plateforme. J'ai des centaines de modèles qui n'attendent que ça. Donc franchement, ça a un potentiel de dingue. Je viens de l'annoncer aujourd'hui, il y a quelques heures maintenant. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais de plus en plus en parler publiquement pour préchauffer l'audience. Et je vais aussi vendre des accès anticipés à la plateforme. Comme ça, ça bénéficiera aux agences et aussi à Fortumedia en termes de cash flow. Donc, pour l'instant, ça se passe très, très bien. J'ai aussi lancé une nouvelle offre qui s'appelle le Club 1% et qui est en gros un mastermind privé slash un groupe d'influence très restreint qui ne regroupe que des entrepreneurs qui font déjà de la thune avec leur activité et qu'on va simplement intégrer dans ce mastermind où on va s'échanger des tips très régulièrement sur WhatsApp, où on va faire des dîners, des soirées, des événements. Ces personnes-là, ces membres du Club 1%, vont aussi être invités à tous mes événements, les conférences, les séminaires, sans débourser 1 € de plus. Donc c'est une offre qui est chère, qui est à 5K et qui est sur candidature réelle. Hein, c'est pas le truc du marketing en mode « Waouh, faut passer l'examen » et en fait, tout le monde passe dès qu'il y a du cash. Moi, en fait, je peux pas me permettre de prendre des gens mauvais ou qui ne matchent pas les conditions. Il y a 3 conditions, c'est avoir un business qui tombe déjà à plus de 3K par mois, être prêt à investir 5K, il y a quand même une condition économique. Et la dernière, c'est avoir quelque chose à apporter au club en termes de connaissances, de réseaux, de ressources, etc., etc. Et donc, actuellement, on est à peu près 25. Tous font entre 5 et 300K par mois. Et donc, c'est en plus d'avoir un petit peu rajouté du cash flow à Fortu Media en toute transparence, c'est une offre qui, moi, me permet de m'entourer de gens bien, honnêtes, que je prends tous en appel auparavant, en visio, avec lesquels je discute beaucoup, qui m'apportent, à qui j'apporte. Donc, en plus de créer une petite source de cash flow supplémentaire à Fortu Media, alors je ne dépends pas de cette source du tout, mais c'est toujours ça de prix, ça me permet tout simplement de me créer un réseau pour moi sans dépenser une énergie considérable à le faire, de me faire mieux voir par mes amis entrepreneurs, enfin encore plus mieux voir, j'ai envie de te dire, parce que de leur faire rencontrer des gens intéressants, intéressés dans le bon sens du terme, qui sont compétents, avec lesquels ils peuvent nouer des partenariats commerciaux, etc. Donc là, on a fait plusieurs dîners déjà, ça existe déjà depuis pas mal de temps, depuis un an et quelques, ça s'appelait L'Ordre avant, peut-être que tu as vu passer le nom. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pousse pas du tout, parce que je ne veux pas en faire un produit, je veux que ça reste vraiment réservé aux entrepreneurs qui effectivement sont à 3, 5, 10K par mois et qui sentent qu'il y a un plafond de verre, parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est le gros problème quand tu es entrepreneur, c'est que les formations ne résolvent plus tes problèmes, puisque les formations sont trop vagues, trop spécifiques, trop mass market pour détenir les solutions à tes problèmes lorsque tu atteins un certain niveau dans l'entrepreneuriat. Et donc, la seule manière véritable d'obtenir des conseils personnalisés, de l'aide concrète et pertinente à tes problèmes, c'est juste de t'entourer de gens qui ont déjà vécu ces problèmes-là dans leurs industries, dans leurs business respectifs, et qui sont capables, parce qu'ils sont smart, intelligents, qu'ils ont pas mal d'expérience, et qui sont donc en mesure de dire « Ah bah écoute, tu devrais tester ça, moi je suis pas dans ton business, mais je pense que si tu fais ça, ça va peut-être marcher, est-ce que tu as déjà pensé à faire ça, etc. » Et en fait, on sous-estime vachement le pouvoir de ça. C'est-à-dire le fait d'être entouré, c'est la fameuse phrase, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, bah c'est vraiment ça en fait, ton business est aussi la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus et qui ont un business évidemment. Et donc ça, le club 1%, pour moi ça a été extrêmement bénéfique, que ce soit en termes oui, de serre encaissée, mais aussi et surtout en termes de relations, de partenariats commerciaux, commerciaux. On a par exemple un gestionnaire de patrimoine qui nous a rejoint récemment, on a un kinésithérapeute, on a un conférencier, on a des copywriters, c'est extrêmement varié, on a aussi des founders de start-up, de SaaS. C'est extrêmement varié, c'est ça qui fait la richesse de la chose. Donc évidemment, si toi tu es intéressé à l'idée de rejoindre le club et que en plus tu matches les conditions que j'ai énoncées précédemment, n'hésite pas à m'envoyer une question, un message sur Instagram. Ce sera moi ou potentiellement plus Soigny, mon assistante, qui te répondra. Ensuite, une autre chose dont je voulais parler, c'est que, et ça m'a fait beaucoup de bien de le constater, outre la liberté, le luxe, etc., le statut, ce genre de choses, j'ai vraiment pu reconstater une nouvelle fois que putain, une des choses les plus importantes dans le business, c'est de pouvoir avoir la capacité, la liberté, le luxe d'allouer son temps aux priorités du moment. C'est-à-dire que là, j'ai eu notamment deux amis qui ont traversé des passes très difficiles et qui les traversent encore aujourd'hui. Ça fait à peu près un mois et quelques pour l'un des deux. Et j'ai pu en fait me libérer du temps, j'ai pu carrément changer de ville, prendre un train, aller les voir, passer la soirée avec eux, etc. Et bon, je serai très bref là-dessus puisque je ne veux pas étaler ma vie perso ni la leur, encore moins la leur. Mais putain, si ce n'est pas pour la liberté, ni même le luxe, ni même le statut social, peu importe, fais-le pour tes proches en fait. Moi, c'est le truc qui est un déclic énorme pour moi, une nouvelle fois. Des fois, on a des déclics a posteriori, alors que tu as déjà pris une décision. 6 mois après, tu te dis « putain, mais c'est exactement pour ça que j'ai bien fait de l'apprendre ». Et tu ne le voyais pas forcément aussi nettement avant que ça n'arrive, avant que tu n'aies ce déclic. Et moi, c'est exactement ce que j'ai en ce moment, c'est de me dire « putain, rien que pour ça, j'ai fait le bon choix, quoi ». Pouvoir avoir, à un moment donné, des gens qui ne sont pas bien et qui comptent pour toi, et avoir cette liberté de prendre de ton temps, de ton énergie pour aller les voir, pour passer du temps, etc., ça n'a pas de prix. Donc juste pour ça, fais-le, quoi. Ça doit être une motivation suffisante parce que viendra un jour ou ce ne sera pas forcément un de tes amis qui traverse une mauvaise passe mais qui va s'en remettre. Ça va être le décès potentiel d'un de tes parents, ça va être une passe extrêmement difficile pour ton frère, ta sœur, etc. Et là, faudrait être là, quoi. Et imagine la honte que tu ressentiras lorsque, je ne sais pas, ton frère t'appellera à l'aide sans trop te le dire parce que grosse fierté. Et tu devras lui répondre: ah ben non, en fait, lundi, j'ai réu pour le petit project side de la team. Putain, quelle honte, quoi. Quelle honte. Moi, c'est le truc que j'ai toujours voulu éviter. Et heureusement, aujourd'hui, j'arrive à l'éviter. Donc, juste pour ça, monte un bise. Ensuite, j'ai noté dépenses. Parce que je me suis rendu compte que je dépensais pas mal, mine de rien. Moi, j'ai jamais été trop dans le calcul. Il y a beaucoup de gens qui budgétisent, etc. Moi, je pense que c'est très contre-productif. Parce qu'en fait, tu as plus les yeux rivés sur les dépenses que sur les entrées. Donc pour moi, ça a toujours été très secondaire. Mais récemment, je me suis juste fait la réflexion. Et en fait, tout additionné, même si certaines choses passent sur la boîte, il y a quand même du plaisir dedans. Je te donne l'exemple d'un dîner d'affaires. Je passe un très bon moment parce que les gens que je fréquente, même si c'est pro, je les apprécie. Et en fait, le dîner, tu peux très facilement en avoir pour 300 balles par tête, tu vois. J'ai fait le calcul et en fait, je suis à facile 7 000, 8 000 euros dépensés par mois, quoi. Si on ajoute les hôtels, les déplacements, les dîners, etc. Parce que, évidemment, c'est du pro, ça rapporte plus à la boîte. C'est nécessaire que je vois des gens, que je me déplace, que je montre des beaux lieux pour vendre, etc. Mais il y a quand même beaucoup de kiff, quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Et je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup. Et alors que j'avais pas forcément élevé mon lifestyle par rapport à l'année dernière, tu vois, ou à l'année d'avant. Plus à l'année d'avant, c'est-à-dire fin 2021, début 2022. Et on voit vraiment que l'inflation a eu un impact énorme. Et bien sûr que ça impacte plus les pauvres que les riches. Mais quand tu es riche, vu que tu as forcément élevé tes standards, tu te le prends de plein fouet lorsque tu consommes du luxe, de l'alcool, des hôtels, etc. Tu le sens de plein fouet, pardon. Et je me dis, putain, alors que je fais du 60K par mois, faut que je fasse plus de thunes, quoi. Parce que je me sens pauvre. Je me sens pauvre en ce moment. C'est ce que j'avais dit sur le podcast de Delphine. C'est qu'en fait, aujourd'hui, avec l'inflation, avec tout ce que tu dois faire pour avoir un lifestyle sympa, avec toutes les opportunités que tu as et les coûts qui en incombent, c'est-à-dire, bah, t'es invité à telle soirée, tu prends le TGV, puis tu prends l'hôtel, etc. La belle vie coûte très cher. La belle vie coûte très cher, comme disait ce cher Ous. Ensuite, j'ai marqué zéro de profit et intégration fiscale, et je pense qu'on va s'arrêter là. Ce podcast sera assez bref. J'ai voulu te faire un condensé de tout ce qui s'est passé pour que tu aies une overview un petit peu complète et globale. Cette année, je vais sûrement payer très peu d'impôts sur les sociétés parce que j'aurais fait très peu de profit. Alors, non pas que en fait j'ai menti depuis un an et que je n'ai pas gagné d'argent, ou alors qu'en fait je fais de la pub qui me bouffe tous mes coûts, pas du tout. C'est qu'en fait j'ai fait énormément de thunes. Juste Fortu Media, ça a dû rapporter 500K de profit parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de coût d'équipe à part soigner mon assistante. Et en fait, tout le reste a été bouffé par les séminaires, la conférence, Demoiselle, la plateforme, etc. Et donc, je vais me retrouver avec très peu de profit et très peu d'impôts grâce à l'intégration fiscale parce que même si ce n'est pas Fortu Media qui exploite Demoiselle, c'est-à-dire la plateforme ne va pas être déclarée sous le flambeau Fortu Media, mais sur une autre boîte. Vu que les deux boîtes appartiennent à la même holding, en régime mère-fille, eh bien en fait, on peut considérer que si la société qui exploite Demoiselle a perdu 150 000, parce que les avocats, parce que les développeurs, etc., et que Fortu Media a fait 150 000 euros de profit, ça s'annule. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, le profit sur le groupe, il est de zéro. Et donc, tu payes zéro d'impôt sur les bénéfices. C'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais auquel je ne m'étais pas vraiment intéressé parce qu'avant, je n'avais pas de holding, je n'avais pas plusieurs boîtes où je pouvais jouer comme ça avec les profits. Alors, quand je dis jouer, si l'administration fiscale passe par là, ce n'est pas du jeu. Vous pouvez regarder, tout est justifié, justifiable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça confirme encore une fois ce que j'ai dit dans de nombreux podcasts, de nombreux contenus, de nombreux messages Telegram. C'est que la France est un enfer fiscal pour ceux qui ne comprennent pas les règles du jeu. Exactement de la même manière que si tu joues au Monopoly sans chercher à en comprendre, à en connaître les règles, tu te fais plumer. C'est exactement pareil en France. Et en fait, lorsque tu es gagne petit, c'est-à-dire lorsque tu fais moins de 30K par mois, effectivement, tu te fais détrousser. Et tu as l'impression que c'est un vol, si ce n'est même un viol fiscal, alors que lorsque tu t'y intéresses, lorsque tu fais des montages, lorsque tu consultes des avocats, lorsque tu optimises, tu te rends compte que c'est un terrain de jeu. Évidemment, il faut rester avec l'eau, évidemment, faire les choses bien, mais tant que tu fais pas le putain de singe à vouloir te verser 200 000 euros de revenus en perso parce que tu veux acheter du Gucci, en fait, tu payes pas tant que ça. Il faut être smart, il faut le faire bien, il faut se renseigner, il faut se former, moi c'est ce que j'ai fait. Toutes ces connaissances en fiscalité, en compta, etc., en optimisation, je ne les sors pas de nulle part, je ne sors pas de mon chapeau, je me suis formé, j'ai analysé, j'ai pris conseil, j'ai payé des gens très cher, mais au final, je me retrouve avec une société qui va cracher du 500K sur l'année, ce qui est une petite année. Hein. Moi, je n'ai pas effectivement focus sur le cash flow cette année, mais on n'est pas les seuls du tout. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est le cas de beaucoup de gens que je connais, des infopreneurs, des prestataires de services, où cette année a quand même été un petit peu difficile. Et aussi, pour beaucoup, ça a été soit l'année du repos, ce qui n'a pas été mon cas, mais il y a des gens qui, après 2020, 2021, 2022, qui ont été des années un petit peu hardcore avec tout ce qui s'est passé, où il y en a qui ont beaucoup rush, qui ont beaucoup pris de thunes sur le court terme. Il y en a pas mal qui se sont reposés en 2023, et je les comprends. Moi, ça a beaucoup plus été une année de remise en question et de bâtissage, quoi. C'est-à-dire que j'ai énormément investi, j'ai énormément dépensé pour le bien et pour l'avenir de ma boîte, pour mon image, etc. Et ça a payé, mais ce n'était pas une année où on a fait du cash. Tu vois, par exemple, Fortumedia fait légèrement moins, la structure en elle-même, que l'année dernière. Mais par contre, la notoriété, elle est x10, la crédibilité, elle est x5, les avis clients, etc., x3, x4, enfin, c'est une très très bonne année, je suis très content. Mais en revanche, c'est vrai que ce n'est pas une année en cash flow qui est record. Je pense que l'année prochaine sera beaucoup beaucoup plus lucratif, parce qu'en fait j'ai passé mon année à bâtir les fondations pour l'année prochaine. C'est-à-dire que j'ai planté des graines qui fleuriront, qui pousseront l'année prochaine, et je vais en récolter les fruits en 2024. Surtout que pareil, là, ce qui m'a coûté énormément, c'était donc d'un côté Fortumedia, les séminaires, etc., et de l'autre côté, Demoiselle, la création de la plateforme. Et en 2024, ça s'annonce très sympa, parce qu'on va enfin avoir les fruits de ces investissements. Quand je dis « on », pour le coup, c'est moi et mon associé, parce que de mon côté, j'ai investi à l'heure actuelle environ 100K. Donc ça commence à piquer dans le bas du dos, évidemment. En plus, j'ai investi 100K dans un groupe média que tu connais, qui s'appelle Le Crayon, aux côtés de Xavier Niel notamment. Et donc, ça commence à piquer un petit peu dans le bas du dos, mais je ne regrette rien, je suis même très content d'avoir eu les couilles de le faire, en fait. Puisque très souvent, on a ce côté très paysan où quand on fait de la thune, on veut absolument la garder, tu vois. On se dit, putain, au cas où, c'est bien d'avoir de la trésor, t'es content, tu flexes, t'ouvres ton compte en banque, t'es rassuré, t'as de la dopamine, c'est super. Mais en vérité, lorsque t'as beaucoup d'argent, il va fondre comme neige au soleil à cause de l'inflation, etc. Tu regardes des documentaires, imaginons, sur la bourse de Wall Street ou ce genre de choses, il y a 10, 20, 30 ans, t'es atterré des prix. Regarde les prix des maisons en 1970, 1980, c'est aberrant. Alors que c'était, alors il y a 40 ans, mais c'est pas énorme non plus 40 ans. Et tu regardes les prix ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, et tu te rends compte à quel point l'inflation, elle est terrible. Et donc, même si on a ce truc un petit peu paysan, un petit peu primaire, de dire, je gagne de l'argent, je le stocke, je l'économise, il faut vraiment le placer. Et quand je dis le placer, ce n'est pas forcément les cryptos, la bourse. D'ailleurs, c'est le point que j'ai omis. C'est super que j'en parle. Ça me fait penser que je dois t'en parler avant de clôturer ce podcast. Ce que je veux dire, lorsque je te dis place ton blé, ce n'est pas forcément dans des actifs qui sont très volatiles et qui vont prendre 10% par an, ou alors qui vont faire 1 to 0 en un an, quoi, comme la crypto. Ce que je veux dire, c'est lance d'autres projets, prends des parts dans des boîtes, etc. Je te parle de vrais investissements, d'accord, du dur, des choses qui capitalistiquement peuvent avoir un ROI qui est énorme, quoi. Moi, les 100K que j'ai investi dans le crayon, dans 2-3 ans, ça vaut le triple, quoi. Facile. Parce que j'ai bien choisi l'investissement en question, j'ai bien choisi l'entreprise, je les connais, je connais tout leur business model, donc ce n'est pas un investissement que je fais à l'aveugle. Et pareil pour les cryptos, moi je vois que le Bitcoin a réatteint les 40 000 dollars, et là c'est de nouveau la FOMO, quoi. Tout le monde se jette dessus, tout le monde commence à délaisser un peu son business en disant « putain les cryptos », et en fait c'est un shiny object. C'est pour ça que moi par exemple, j'ai choisi de revendre les cryptos qui me restaient, puisqu'on avait déjà vendu pas mal en 2022, je m'étais fait un joli bénef, mais j'ai quand même choisi de revendre la quasi-totalité. Il me reste 2-3 wallets que je dois vider, Parce qu'en fait, même s'il y a évidemment un monde dans lequel ça monte, etc., ça me défocus. Ça me défocus et en fait, même si ça me prend de l'énergie mentale, etc., ou du temps de recherche, d'analyse, ce genre de choses qui est assez moindre, c'est-à-dire quelques heures par semaine, c'est quelques heures par semaine que je ne vais pas allouer à mon main business ou à Demoiselle. Et Demoiselle peut avoir des multiples de ports. Tu vois, si on a ne serait-ce que quelques dizaines de modèles qui font du 10-15K par mois, et ça court les rues, très honnêtement, si tu es dans l'OFM, tu le sais, on vaut déjà plusieurs millions. Donc je m'en fous, en fait, à la limite de faire un x2, x3 sur 30 000, 40 000 balles. Je préfère tout vendre, comme ça, je mets une œillère dessus, volontairement. Ouais, peut-être que je passe à côté de la thune, d'un peu de thune en tout cas, peut-être même un x4, qui sait. Mais au moins, je gagne en focus à fond. Parce que c'est ce qui fait perdre énormément d'argent à énormément d'entrepreneurs, c'est que, in fine, ils se défocusent de leur activité rentable, pérenne, qui tourne bien, qu'ils ont mis longtemps à construire, pour tomber dans tous les pièges de la crypto, de l'investissement, la FOMO, le fait de ne pas savoir vendre quand il faut vendre, parce que tu te dis, putain, ça va encore monter, ou alors ne pas accepter la loss, la perte. C'est du défocus pour moi. Donc, moi, j'ai vendu l'intégralité de mes cryptos. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que je préfère largement allouer ma capacité cérébrale, mon temps, mon énergie mentale à des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Et c'est aussi ça, moi, mon vrai déclic de cette année, c'est que mon capital est quand même toujours mieux investi dans des actifs que je comprends véritablement. Où tu vas me dire, oui, j'ai analysé l'action Apple. Oh, très bien, merci. Je te parle d'actifs que tu comprends véritablement parce que tu es skin in the game et que c'est ton domaine dans lequel tu es meilleur que 99% des gens, sur lequel je peux avoir un réel impact. Tu vois, je peux dire, Apple, c'est génial, Apple, c'est génial, et le scander dans toute ma ville, ça ne va pas faire monter l'action Apple, alors que ce que j'ai fait avec Kenzie, par exemple, eh ben, ça fait passer un business de 3K à 30K par mois en un an et demi, et dont je vais prendre 20% des dividendes à vie. Tu vois, donc ça, c'est un bon investissement. Les cryptos, pour moi, c'est de la perte de temps. C'est du FOMO, c'est du loose focus. Laisse tomber. Donc, évidemment, si ça t'amuse de mettre des centimes dedans, pardon, vas-y. Mais encore une fois, pour moi, ça vaut pas le coup. Surtout en plus, parce que tu n'as pas encore de business, ton focus, ça doit être de créer une source de cash flow, de créer un business et pas de mettre des petites centaines d'euros par-ci par-là en espérant un fois 10. C'est un truc de singe, tu vois, c'est du casino que tu fais. Et pour ce qui est de la bourse. À mon avis, effectivement, c'est une bonne manière d'épargner, de se protéger de l'inflation, mais ça reste quand même des cacahuètes lorsque tu n'as pas plusieurs centaines de milliers d'euros à placer, quoi. Tu vas prendre de 10% sur 10 000 balles. Bon, tu as fait 1 000 balles l'année, c'est super, c'est pas dingue non plus, tu vois. Et encore, une bonne année, parce qu'encore une fois, on rappelle que c'est des moyennes, avec des années records, mais aussi avec des grosses années de crack. Donc, si ta vision, elle est long terme, c'est très bien, mais si tu as 10K au total à placer, lance un bise avec quoi. Le retour sur investissement est bien plus intéressant. Donc voilà, c'était un petit peu le bilan que je voulais te faire de ces deux derniers mois, qui ont été beaucoup plus calmes que celui d'avant, mais qui ont été très instructifs, où on a beaucoup avancé. Il y a des fois où il faut accepter aussi de gagner moins d'argent. Le capitalisme réussit à ceux qui sont capables de repousser le profit dans la poche. C'est une phrase qui me vient à l'instant. Que j'aurais sûrement aimé mieux formuler, mais je te l'ai dite comme elle m'est venue. Et ce que je veux dire, c'est que le capitalisme, surtout le capitalisme comme il est en France, avec le fait que tu sois taxé à l'income et pas au vrai profit de ta boîte, il rapporte énormément quand tu es capable justement de pas dire OK, ma société commerciale, elle a fait du profit, OK, je le prends, je me le verse tout de suite. Mais par contre, le capitalisme comme il est en France va bénéficier à ceux qui vont dire OK, ma boîte commerciale a fait de la thune. Je vais réinvestir ça dans une autre boîte via une holding. Je vais faire un investissement. Je vais attendre 2 ans. Je vais revendre mes parts. Je vais empocher 1 million imposé à 4%. C'est là où tu fais vraiment de la thune. Je te réfère à ma dernière vidéo YouTube, comment devenir vraiment riche en France malgré les impôts, qui est mal foutue visuellement, mais qui est très très intéressante. On va profondément dans le sujet en fait. Il n'y a pas de blabla, c'est que du concret. Donc je t'invite à la regarder. Et bien écoute, je vais te laisser là. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Encore une fois, si tu as écouté jusque-là, je t'invite à m'envoyer décembre. Tu m'envoies décembre par message privé sur Insta. Et puis, je likerai ton message. Je t'enverrai un petit emoji. Ça me permettra de voir qui écoute vraiment les podcasts. Et encore une fois, ça m'incitera, ça m'invitera, ça m'encouragera, putain, je vais y arriver, à continuer ce genre de format. Moi, j'aime bien les faire. Et si je vois que ça continue de plaire autant, je le referai à peu près tous les mois. J'en ferai évidemment certains sur 2 mois, comme je viens de le faire, lorsque j'aurais pas forcément eu le temps de le faire lors du mois précédent. Mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça te plaît aussi. Donc, envoie-moi décembre par message privé. Et je te dis à très vite dans le prochain podcast.